Je sais que la première question n'est pas toujours la plus simple, mais n'hésitez pas à vous lancer. L'objectif, c'est que vous puissiez aussi obtenir des réponses. Voilà, à qui veut prendre la parole. Oui, merci de vous lancer.
Oui, bonjour. Benoît Grivelaraud. Donc, j'habite l'Urcousse et j'ai la chance de pouvoir partager ma vie entre le Midi de la France et l'Urcousse. Pourquoi je parle du Midi de la France ? Parce que je fais partie d'un comité communal des feux des forêts. Donc, notre travail, bien sûr, consiste à la prévention et on est en rapport tout le temps avec les pompiers. Donc, vous en avez parlé, puisque monsieur fait partie de cette prévision-là, quoi. Mais le rôle des habitants, quoi, d'un village, c'est de bien connaître la région. Et quand il y arrive les pompiers, quand malheureusement il y a un incendie, bien souvent, ça arrive, ils arrivent par vague. Et les pompiers qui arrivent ne sont pas forcément de la région. Et donc, pour cela, il faut les guider. Il faut leur montrer les endroits, les chemins, etc. Je sais que le travail de certaines personnes qui sont là à l'année pour surveiller, etc., n'ont pas cette chance de pouvoir le faire à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est le plus important. D'abord, le travail d'une personne qui fait partie du comité communal des feux des forêts est là pour assurer les gens, pour faire la prévention, c'est-à-dire donc, quand il y a des coups de vent, etc., on sait que c'est à ce moment-là que ça, le feu peut partir, et de prévoir et de prévenir les gens, les personnes. Donc, je veux dire, c'est pour ça que je m'étais étonné de ne pas avoir vu cet élément-là dans votre tableau tout à l'heure. Mais enfin, vous m'avez rassuré puisque vous en avez parlé. Mais je tiens à dire que c'est quand même très, très, très important le travail du comité communal des feux des forêts. Donc, je pense que, Madame la maire, merci pour tout ce que vous avez fait pendant ce feu qu'il y a eu, qui était dramatique pour tout le monde, y compris pour nous, puisque nous étions à l'entrée du village de l'Urcousse quand c'est revenu. Mais j'ai vu le travail important des pompiers. Le travail des pompiers était un petit peu déboussolé parce que des gens ne savaient pas à qui s'adresser exactement quand il y avait des problèmes. Notre rôle à nous, de comité communal des forêts, c'est on est tout le temps en relation avec les pompiers. On se situe un petit peu à leur travail. C'est-à-dire, on n'est pas là pour éteindre un feu, mais on est là pour les prévenir. Et de surveiller également, parce que bien souvent, il y a des chemins, des FCI qui ne sont pas tout à fait convenables pour les passer des camions, etc. Donc, c'est à nous de le dire, de le prévenir, la municipalité. Voilà, c'est juste cela que je voulais vous informer.
Merci. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu hein, dans les échanges, c'est comment on implique la population. Peut-être Christine, tu veux répondre, ou Jérôme, sur comment voilà, ces comités communaux de défense contre les incendies. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot ?
Oui, moi je vais dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les pompiers étaient quelque peu déboussolés, enfin certains en tout cas qui ne connaissaient pas les lieux. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure avec beaucoup d'émotion, mais bon, les habitants ici se sont spontanément proposés et ont proposé leur aide justement pour guider, diriger, aider avec leurs moyens, hein, que ce soit les citernes d'eau, que ce soit simplement leur montrer des itinéraires ou autre, la logistique, etc. Donc il y a les habitants, la solidarité des habitants a fonctionné et il y a beaucoup de gens qui se sont proposés pour aider. Vous avez raison de dire qu'un comité communal de feux de forêt, ça permettrait effectivement d'être un peu plus, de cadrer un peu mieux toutes ces interventions qui ont finalement été très ponctuelles. Chacun a fait comme il a pu faire au moment où l'incendie faisait rage. Mais c'est vrai que on en a parlé à certaines fois lors des comités. Je vais laisser la parole peut-être à Jérôme pour répondre aussi. Mais oui, tout à fait.
Nous avons un uniforme qui est bien précis puisqu'on est habillé en orange. Donc les gens nous reconnaissent et nous remercient pour le travail que nous faisons, puisque c'est vrai que la prévention, c'est ça qui est important. Je fais partie du comité communal de feux de forêt depuis plus de 10 ans. Donc maintenant j'ai 80 ans.
Sur quelle commune du coup ?
Croquefort de la Bédoule. Et nous avons même des pompiers qui sont arrivés même de cet endroit-là pour être dans la forêt. Et donc, habillés en orange, etc., les gens nous reconnaissent et ils savent que nous sommes là pour les protéger, pour protéger la région, quoi, etc. Et donc, ils nous font confiance. Et on n'a pas besoin d'être, comment dirais-je, à les empêcher de faire leur promenade, etc. Mais en cas de coup de vent, c'est terrible. C'est terrible. Des gens de l'imprudence qu'il y a. Et je peux dire que grâce à notre travail de comité, nous avons réussi à faire en sorte que, depuis quelques années, il n'y a plus de feux de forêt dans la région.
Alors, ce que peut-être rajouter là-dessus, qu'il y a une donnée aussi qui a changé au sein même de la défense contre les incendies, c'est que l'Aveyron est rentré, en fait, comme département, dans la liste des départements du Sud qui sont sur des dispositifs spécifiques comme ça. C'est vrai que c'est des choses qui existent dans l'Hérault, dans le Gard, choses comme ça. Et aujourd'hui, il y a, dans le cadre des réflexions sur le plan de massif, sur la lutte contre les incendies, avec la communauté de communes aussi, sur comment effectivement constituer ça. Alors je ne sais pas où est-ce qu'on en est là exactement de ce projet-là, puisque comme on l'a vu, il y avait aussi beaucoup de choses qui ont eu à faire avant. Mais là aujourd'hui, à la phase donc, de vraiment post-incendie, peut-être Jérôme, tu peux apporter quelques éléments là-dessus. Oui, c'est au niveau de la commune que dans ces départements, c'est au niveau de la commune.
Et du bénévolat, quoi. On n'est pas payé.
Et bien sûr, c'est bénévole. Voilà. Oui. Jérôme, peut-être.
Oui, c'est bénévole. C'est extrêmement important d'avoir cette présence effectivement humaine sur site. J'étais hier au Pays Cœur d'Hérault pour le comité de pilotage de la charte forestière de territoire qui a évoqué ces sujets-là. Ça fait 50 ans dans l'Hérault qu'ils ont des pompiers sapeurs qui contrôlent, qui passent leur temps, surtout l'été, effectivement, à faire de la surveillance. Ça fait 20 ans que les services de l'ONF font le contrôle des obligations légales de débroussaillage. Je veux dire, les humains, comme les végétaux, sont adaptés en région méditerranéenne à faire face aux incendies qu'ils connaissaient de manière régulière. En Aveyron, on n'était pas habitué à ces formes d'incendies et cette sensibilité, cette culture du risque, on l'a un petit peu sur le volet inondation. On ne l'a pas du tout encore construit sur le volet incendie, donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, à la fois au niveau du département, sous le pilotage du préfet, à l'échelle des communes et des communautés de communes. Les équipements des FCI, il y a un document, un plan de massif d'équipement des FCI qui a été mis en place par la communauté de communes Millau Grand Causse sur le Causse Noir. Il sera révisé. Et le parc s'est porté maître d'ouvrage en délégation des communes pour travailler sur Mostuéjoul de manière élargie, sur le Causse Rouge et le Causse de Sauveterre aveyronnais, pour travailler sur ces équipements des FCI. Mais vous voyez, c'est un début de travail. Voilà. L'incendie, la chance finalement de l'incendie, c'est d'avoir été aussi une étincelle pour réveiller un petit peu... Les habitants, les collectivités, les institutions sur ce risque-là qu'on savait prégnant, qu'on a pris en compte nous au niveau du parc depuis plusieurs années. Quand on travaille sur la forêt, forcément, on intègre ce risque-là. Mais c'est une dimension collective et effectivement, l'aspect prévention, sensibilisation, information, ça prime avant tout. Et la meilleure lutte contre l'incendie, c'est l'incendie qu'on évite.
Il y a Jade aussi, peut-être tu voulais ajouter quelque chose.
Ouais. Je me permets juste d'élargir un petit peu parce que ces comités communaux de feux de forêt, en fait, ça peut être complètement élargi et c'est ce qu'on appelle les réserves communales de sécurité civile. Et du coup, c'est des riverains qui sont un petit peu plus aguerris dans la prévention des risques et qui peuvent jouer un rôle même dans la gestion de crise, donc être aux côtés de la commune et des services de secours en cas de feu de forêt, en cas d'inondation, en cas de tempête, en cas de tout et enfin tous les risques. Donc ça peut se prévoir dans les plans communaux de sauvegarde. Et c'est aussi important, là c'est la petite casquette prévention, mais sous l'autre côté, c'est aussi important de structurer. Bon, moi, j'étais pas là pendant le feu. Enfin, j'étais pas là juste après, aux côtés de la commune. Donc, je sais pas comment ça s'est passé. Mais je sais que souvent, lors d'un événement, justement, tout le monde veut aider. Et c'est important de pouvoir aussi organiser cette aide, parce que sinon, tout le monde peut potentiellement faire n'importe quoi, voire se mettre en danger, voire freiner les services de secours. Et donc, d'où l'importance de l'existence de ces comités. Ça peut être vraiment un plus, mais aussi de l'organiser et de le prévoir, de l'articuler avec tout le reste.
C'est toujours en relation avec les pompiers.
Tout à fait. Et je rajoute à ce que vous venez de dire que donc d'une part on a dans le sud d'Aveyron une sous-préfète qui est arrivée après l'incendie mais début 2023 qui a été chargée justement de s'occuper en Aveyron des questions de DFCI, défense contre les feux de forêt, et qui elle-même est en train, je les ai interrogés lundi en fait pour le projet. La préfecture, qui voilà, réfléchit justement à ces questions. Là où ils ont attiré l'attention, c'est que oui, alors par contre, nous, on essaie d'informer les habitants, les associés. Le premier geste pour les associés, c'est ce qu'ils appellent les OLD, les obligations légales de débroussaillement. Et elle me faisait remarquer que les réunions pour les OLD sont pas celles qui ont attiré les foules, ce qui est vrai. Et donc, c'est vrai que c'était pas forcément aussi clair que ça. Jusqu'ici, peut-être pour la population, le lien entre je débroussaille les bandes obligatoires, hein, c'est une obligation autour de mon jardin, autour de ma maison, à la fois pour moi, mais aussi pour permettre que s'il y a des pompiers un jour, bah, ils puissent garer leur camion, se mettre en protection, des choses comme ça. Ça, c'est le premier geste de prévention, en tout cas aujourd'hui. Et donc, voilà, je fais passer ce message parce que c'est vraiment ce qui est ressorti de cet échange. Et puis l'autre chose, c'est qu'il existe un plan communal de sauvegarde et qu'au moment où il y a eu l'incendie, en fait, il y avait ce plan qui a été mis en œuvre à Mostuéjouls, mais qu'il va falloir peut-être effectivement intégrer de nouvelles dispositions aujourd'hui. Peut-être, Christine, tu peux compléter là-dessus. Sur, tirant les enseignements de ce qui s'est passé et aussi de la connaissance de la population, etc., comment on s'organise quand il y a une alerte, quelle est la chaîne de décision, etc.
Alors juste pour répondre, on a effectivement un plan communal de sauvegarde qui a été utilisé lors de l'incendie et lors des inondations ici. À chaque fois, il est utilisé. Il est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question de le revoir, de le modifier, etc. Et parallèlement à ça, bon, ça c'est au niveau communal. Au niveau de la communauté de communes, il y a des initiatives qui ont été proposées aussi pour mettre en place, je demande ton approbation, mais en tout cas il y a des personnes qui se sont proposées pour mettre en place là une réserve intercommunale de sécurité et qui serait chargée sur le territoire de la communauté de jouer ce rôle. Et ce qui me semble peut-être aussi pertinent, peut-être plus, parce que, au niveau communal, on est quand même très peu de personnes à gérer ça. Et on a une petite commune, toute petite, avec peu de moyens. Alors qu'au niveau intercommunal, on a certainement un peu plus de moyens pour gérer une réserve comme ça. Et comme ça a été proposé, effectivement, par la communauté de communes, voyons, pour l'instant, ça n'est qu'au stade de proposition. Voyons où ça va.
Mais chaque petite ville, parce que c'est vrai que le village où j'habite dans le sud est un village pauvre. Parce que le maire, chaque fois que je le vois, il me dit « on est pauvre ». Bon, alors je veux bien le croire. Mais chaque commune a sa propre équipe. Je veux dire, il n'est pas question de partager un travail avec d'autres communes. Parce que pourquoi ? Parce que les villageois du village, c'est des gens de Loukous ou de Mostuéjouls, connaissent mieux que quiconque les endroits, les passages. Quelqu'un qui vient de Rivière-sur-Tarn ou d'Agossac, etc., ne peut peut-être ne pas le connaître. Donc c'est vraiment un truc communal. Et c'est dans la responsabilité, c'est vous, Madame le maire.
J'entends.
C'est en tout cas comme ça que ça s'organise dans l'Hérault et dans d'autres départements qui ont, depuis 50 ans, mis en place ça aussi. Il faut vraiment avoir en tête que cette culture du risque, ça s'est mise en place progressivement et... mine de rien, j'en discutais aussi à l'échelle même européenne, la France et le sud de la France, notamment le Var, département comme ça, ont été un peu pionniers dans la gestion des protections contre les incendies. Et on a un peu ce modèle français là qui fait honneur au-delà même de la France, mais que du coup, effectivement, on va dire que ça n'avait pas franchi le Larzac. jusqu'ici et qu'on va en devoir intégrer ça en Aveyron progressivement, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a effectivement ces idées de brigade ou de comité qui peut être intéressant.
Il y a une autre intervention ici.
Oui, bonjour à tous, donc Vincent Laverne de la DDT. La DDT, c'est le bras armé de la préfecture, donc j'accompagne notamment mon collègue Joseph Gagneux, qui a suivi notamment tous les événements ici à Mostuéjouls. Ce que je voulais préciser, c'est qu'on est tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit, notamment par Jérôme Bussière. Je pense que, autant on est formé à la culture du risque, ici même dans la vallée du Tarn, quand on parle d'inondation, concernant le feu de forêt, c'est nouveau. Voilà. C'est nouveau pour l'État, c'est nouveau pour les collectivités, c'est nouveau pour tout un tas de services, hein, à commencer par ceux qui luttent aussi avec les pompiers, et du moins en termes d'ampleur, hein, ça a été le cas avec ce gros incendie. Ce que je voulais vous préciser, c'est que l'État a pris la main quand même sur cette situation, et du coup les choses sont en train de se structurer. Alors peut-être pas aussi bien, aussi finement que ça se fait dans l'arc méditerranéen ou dans la partie ouest de la France, là où on a eu aussi des méga-feux en 2022, notamment en Aquitaine. Mais les choses progressivement se mettent en place, notamment dans le cadre de dotations, qu'on appelle dans d'autres jargons la MIG, Mission d'intérêt général ONF. Donc c'est une contribution de l'État pour mettre en place des moyens techniques et financiers pour prévenir les incendies de forêt, et notamment sur deux volets. Un volet qui concerne la mise en place de patrouilles, voilà, des patrouilles qui sont gérées à l'initiative de l'État et directement gérées par l'ONF, avec à la fois, alors je ne vais pas détailler, il y a plusieurs types de patrouilles, mais il y a des patrouilles de sensibilisation, il y a des patrouilles de contrôle, de répression, donc, parce que malheureusement il en faut aussi, voilà, des patrouilles de surveillance, donc tout ça, encore une fois, sous l'égide de l'État, avec la contribution de l'ONF. Certains d'entre vous le verront si vous êtes observateur et si, en descendant notamment la côte de Millau, hein, de Saint-Germain, vous avez vu sur le SDIS, il y a aujourd'hui 3-4-4 tout neufs qui sont prêts à, qui sont positionnés au niveau du SDIS de Millau et prêts à partir au moment de la saison pour justement faire office de ces brigades. L'an dernier, on avait des moyens pour deux véhicules de ce type. Cette année, les moyens ont augmenté. On a trois véhicules qui seront mis à disposition pendant la saison des feux et qui vont partir pour deux d'entre eux de la cavalerie et pour le troisième directement du SDIS de Millau, avec des plans de patrouille pré-identifiés. Il y avait cinq secteurs l'an passé, il y en a sept cette année. Je peux vous dire que le secteur ici est très prisé. Hein. Quand je dis ici, c'est le Causse Noire, c'est le Causse Rouge, c'est le Causse de Sauveterre, hein, les secteurs sur lesquels il y a beaucoup de... Enfin, voilà, les enjeux sont importants, mais pas que. Hein. C'est tout le sud Aveyron qui est maillé. Donc voilà, les moyens évoluent à ce niveau-là. Ils évoluent aussi, et ça a été dit, donc on se fait là aussi le relais de Madame la sous-préfète, hein, par rapport à tout ce qui est obligation légale de débroussaillement, hein, ces fameuses OLD. Donc l'État intervient là aussi avec l'appui de l'ONF, que ce soit d'ailleurs en forêt publique, mais aussi en forêt privée, pour sensibiliser la population à l'intérêt effectivement du débroussaillement, qui n'est plus à démontrer aujourd'hui, tant effectivement cette opération est efficace, hein, lorsqu'on a effectivement un feu qui se déclenche. Sur ces OLD, il y a aussi toute l'opération, toutes les opérations de contrôle, là aussi, où les moyens augmentent, hein, avec, là toujours pareil, l'ONF qui est mis à contribution. Donc tout ça, ça a démarré sous l'égide de l'État au niveau des contrôles en 2023, pardon, où il y a une cinquantaine de contrôles qui ont été faits ici dans le sud Aveyron. À l'avenir, et courant 2024, on va multiplier par 8 ce nombre de contrôles. Il y aura à peu près 400 contrôles de réaliser, et ces contrôles se veulent d'abord pédagogiques, mais à un moment donné, ils seront aussi répressifs.
Alors juste pour compléter là-dessus, peut-être oui, Geoffroy Barabé, vous voulez intervenir.
Je fais un petit parallèle parce que on parle d'éducation. Il se trouve que aujourd'hui, clairement, ça suffit plus, puisque je fais un petit parallèle et je digresse un peu. On a monté un collectif de la pleine nature qui a vocation un petit peu à répondre aux problématiques foncières. Donc, on est très conscient que nous pratiquants, on peut générer quelques tensions à travers les activités que l'on a. Il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui passent à certains endroits, ils n'ont pas forcément autorisé, il y en a qui savent très bien ce qu'ils font. Je reviens à notre problématique, c'est qu'aujourd'hui, nous, au sein du collectif, on a à notre actif une condamnation dans le domaine de la dégradation de biens, dans la destruction de biens privés. Et honnêtement, si vous avez des informations, si vous êtes riveraine de ce genre d'activité, ben, le conseil, c'est ça, c'est déposer plainte. Voilà, clairement. À partir du moment où, sans forcément savoir qui c'est, mais à partir du moment où il y a quelque chose qu'on sait très bien que l'information ne sert à rien, parce qu'on a déjà testé, et ça nous est arrivé à maintes reprises, je veux dire, quand on met des grillages qui font 2 mètres de haut et que les grillages sont ouverts une semaine plus tard et que les travaux continuent, c'est qu'à un moment donné, la personne sait ce qu'elle fait. Tout ça pour dire que aujourd'hui, enfin moi, c'est un conseil d'un point de vue de l'œil du collectif, parce que finalement, c'est pas une problématique foncière, mais ça peut très bien être le parallèle. Donc aujourd'hui, c'est ça.
Une autre question ?
Oui. Est-ce qu'il serait possible de parler du plan de massif ?
Alors le plan de massif, donc voilà, c'est ce plan qui va intégrer notamment tous les potentiels nouveaux équipements, voies, etc., liés à l'incendie. Alors, je ne sais pas qui veut parler là-dessus. Monsieur Joseph Gagneux, donc de la DDT.
C'est ça. Donc, les plans de massif, donc c'est une des actions. Là, on a un plan départemental de protection des forêts contre les incendies pour la période 2017-2026. Donc, il y a des choses qui étaient déjà initiées avant l'incendie, mais bon, c'est l'occasion d'intensifier les actions et donc de réaliser plus de plans de massif. Donc, qu'est-ce qu'on entend par plan de massif ? C'est une étude qui va nous dire, à partir d'une description de l'existant, en équipement, donc en piste, en point d'eau, la signalisation aussi de ces équipements, à partir d'un état initial. Donc l'objectif de l'étude va être de définir les équipements stratégiques qui seraient utiles pour la lutte contre l'incendie dans les massifs concernés. Et cette étude ensuite débouchera sur des travaux pour atteindre l'objectif stratégique qui aura été fixé. Voilà, donc cette démarche a déjà été entreprise il y a une dizaine d'années sur le Causse Noire par la communauté de communes Bio Grand Causse, donc qui a initié une révision de ce plan de massif dix ans après, pour faire le point de tout ce qui a été fait et compléter, vu l'évolution des enjeux et des risques depuis 10 ans. Et donc sur le secteur de Mostuéjoul, donc le PNR des Grands Causses s'est porté maître d'ouvrage donc pour l'élaboration d'un plan de massif, donc qui va couvrir tout le territoire du Causse de Sauveterre à Véronais et le Causse Rouge aussi.
Donc de Mongeau, Rosier, hein, grosso modo.
C'est la partie amont du bassin versant du Tarn sur l'Aveyron. Donc côté Causse de Sauveterre, hein, puisque Causse Noire, il y a autre chose qui se fait. Et voilà, donc cette étude, la consultation des bureaux d'études a été faite. Le bureau d'études qui va réaliser l'étude a été retenu. Hein, c'est un bureau spécialisé MTDA d'Aix-en-Provence. Donc là, on en est à la phase de calage des financements. Donc il y a des demandes d'aide publique pour réaliser l'opération. Donc il s'agit maintenant de boucler le plan de financement, et dès que le plan de financement va être bouclé, l'étude pourra démarrer.
Et donc préciser qu'effectivement ces plans de massif, quand on a au moment où il y a eu l'incendie, effectivement c'est surtout les DFCI et les, les réserves d'eau qui se situaient en Lozère, à côté du Masgros, et des villages autour, qui ont en fait servi aux pompiers, mais il y avait effectivement assez peu d'équipements sur la zone même de l'incendie, et puis il y avait aussi assez peu de voies DFCI, et donc une voie DFCI, ça veut dire, alors je ne sais plus qu'est-ce que c'est la taille, en largeur de route, mais voilà, c'est des chemins très élargis qui permettent le passage des camions et puis aussi qui permettent le passage en hauteur où les arbres ne couvrent pas et qui font office de voie de circulation en cas d'incendie pour les pompiers. Une question.
Alors la question s'adresse aux représentants de la communauté de communes. Là. L'incendie aura eu le mérite de nous faire découvrir ce site archéologique que nous connaissions, mais on ne connaissait pas vraiment l'immensité, en tout cas beaucoup de ce qui a été révélé n'était pas connu préalablement à l'incendie. Alors est-ce que c'est une richesse pour nous de découvrir tout ça, est-ce que la communauté de communes a un projet pour à la fois peut-être sécuriser le site, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des risques de pillage malheureux, et puis par ailleurs peut-être aussi inciter nos visiteurs à venir découvrir cet endroit-là. En balisant le site, en le protégeant, je ne sais pas comment. Mais voilà la question que je voulais vous poser.
C'est une question qui a été posée lors des ateliers qu'on a réalisés un peu ensemble. Il y avait un peu les deux points de vue, c'est-à-dire qu'il y a le point de vue où on se dit on va faire en sorte que le site ne soit pas accessible, au moins le temps qu'on ait l'ensemble de l'information. Mais là, rien que le fait de fermer, vous attirez déjà l'œil. Première chose. La seconde chose, si vous dites on laisse tout ouvert, etc., c'est au risque de, un petit peu comme la question des sentiers, vous avez des choses qui fuitent très rapidement sur les réseaux sociaux et on se retrouve avec un pillage qui n'était pas voulu non plus. Alors là, ça va être un point de vue très personnel. Je pense que d'un point de vue archéologique, je ne serai pas là ce soir, mais M. Maillet peut-être en dira un peu plus, je ne sais pas où en sont les fouilles. Dans tous les cas, l'idée serait peut-être de dire on a un projet qu'on commence à décliner un petit peu sur le territoire, qui s'appelle les sentiers du Petit Berger, qui décline un peu de l'ensemble de la charte de l'Office de tourisme mis au Grand Causse, qui pourrait effectivement répondre à cette question, c'est-à-dire d'un point de vue relativement novice, donner l'information aux personnes qui n'ont pas toute la connaissance archéologique qui peut y avoir. D'un point de vue très personnel, et je le dis parce que c'est ce que j'ai ressorti moi dans les ateliers, c'est que pour moi, une partie pourrait effectivement être dévoilée au public. De toute façon, le site est tellement grand que ça ne sert à rien de faire un truc sur le linéaire. Mais qu'une partie un peu emblématique qui reprend un peu l'ensemble de ce qui a été trouvé serait éventuellement à mettre au sein d'un circuit. Donc c'est des parcours qui sont relativement courts. L'avantage qu'on a sur le plateau, c'est qu'on peut trouver quelque chose avec un dénivelé relativement réduit. Et là, on donnerait accès à l'information à un maximum de public. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas quelque chose qui est sur les rails. On va se le caler avec les services archéo quand on aura aussi le feu vert. Puisque aujourd'hui, on n'a pas mis en place de sécurité. Je reviens sur les circuits d'intérêt communautaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne passons pas à proximité immédiate. Avec les circuits dont on a parlé tout à l'heure, nous ne passons pas à proximité immédiate. Mais par contre, par rapport à votre question, oui, on pense que clairement, il y a quelque chose à faire pour donner l'information au public et au public le plus large possible.
Est-ce que Madame le maire sait si le site archéologique est situé sur des parcelles privées ou communales ?
A priori, il y a les deux.
Oui, il y a les deux. Hein. Ça dépend des zones, en fait.
Oui, je voulais juste faire un rappel, puisque j'ai 68 ans, j'ai toujours habité dans cette région. Les incendies, c'est pas nouveau. Enfin, on a tous été surpris de cet énorme incendie. Mais moi, je me souviens enfin la côte Saint-Jean en face, là, au-dessus du Rosier qui a brûlé, le Rajol qui a brûlé. On en a eu des gros incendies à une époque où il y a 30-40 ans, où il n'y avait pas ce couvert forestier qu'il y a aujourd'hui. Si on regarde les photos des gorges d'antan, on voit bien. Donc, ce n'est pas tellement surprenant. Voilà, il ne faut pas qu'on oublie ça. Et si vous remontez, effectivement, il y a eu 10-15 ans où il n'y a rien eu. Mais avant, il y en a eu des incendies qui ont été moins importants parce qu'il n'y avait pas ce couvert forestier. Mais ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Voilà, je voulais juste rappeler ça historiquement si on regarde. Et une question après concernant la reprise de la végétation. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses envisagées ? Est-ce qu'on laisse faire la nature ? Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a des réflexions sur ce point? Voilà.
Merci pour la remarque vis-à-vis de l'évolution des paysages et du risque de feu. Enfin, d'antan, il n'y avait pas d'arbres, peut-être sur le cause de Sauveterre, mais d'antan, il y en avait certainement aussi. Voilà, c'est que les paysages évoluent tout le temps, donc la main de l'homme, elle est prise dessus. C'était juste un petit point là-dessus pour faire le parallèle. C'est que ces paysages-là, le feu peut peut-être en faire partie, l'homme en fait partie aussi, mais ils évoluent en permanence. Le Cosnoir, il tire son nom, il me semble, du fait qu'il a été forestier avant que l'homme le défriche. Petit point, voilà. Et le deuxième point, là, donc pour répondre à votre question sur les travaux qui sont envisagés par la suite, en tout cas sur ce qui concerne les parties dont l'ONF a la gestion avec la validation de la commune, dans le protocole post-incendie, l'étude post-incendie qui avait été proposée, c'était de laisser voir déjà ce qui venait naturellement. Vous êtes sur un site où les sols ne sont pas très très riches, déjà de un. De deux, les arbres n'étaient pas non plus exceptionnels. Il y a tout qui a brûlé. Le sol, il a brûlé aussi. Il n'y a plus grand-chose qui reste au sol. L'idée de laisser les branches au sol, ça a été aussi une préconisation pour l'exploitation forestière pour maintenir le maximum de sol et potentiellement améliorer, en tout cas laisser de la matière qui pourrait se dégrader et redonner du sol sur site. Donc l'idée, voilà, c'était ça, de protéger le peu d'arbres ou de semis qui pouvaient venir naturellement. Donc là, on est à ce stade-là, à suivre un peu ce qui vient naturellement, comment ça vient, avant d'envisager potentiellement d'anthropiser, enfin, ou d'amener en tout cas la main de l'homme sur de la plantation ou autre. Voilà. Après, d'autres projets peuvent venir, enfin, ça reste ouvert, la commune est toujours propriétaire, en tout cas, et les sections sont propriétaires. La discussion est ouverte. Nous, ONF, on va amener aussi notre compétence sur la rédaction d'un plan de gestion. Donc là, maintenant, ces 800 hectares vont être mis en gestion. Donc là, on va planifier, comme le plan de massif sur l'aspect DFCI, nous, on va planifier sur l'aspect forestier le travail qui peut être fait sur l'ensemble du territoire. Donc définir potentiellement des zones où il y a une exploitation forestière potentiellement intéressante. Comment on l'amène? Est-ce qu'on plante des arbres pour les récolter à une date ultérieure? Est-ce qu'on laisse venir et on les travaille comme c'était le cas en fait toute la forêt qui a brûlé, en tout cas communale? C'est ce qu'on appelle de l'accru ligneux, c'est de la dynamique naturelle. C'est des pins sylvestres qui ont colonisé des parcelles agricoles qui n'étaient plus exploitées. C'est une forêt qui est ce qu'on appelle subnaturelle, c'est qu'elle est venue toute seule. Et le travail de l'ONF sur les 50 hectares, pour ceux qui connaissaient ce secteur avant l'incendie, ça fait 40 ans qu'on l'avait en gestion, 30-40 ans qu'on l'avait en gestion au ONF. Et on avait fait des coupes successives. Vous aviez un peuplement, ce qu'on appelle un peuplement de pins sylvestres, qui était plutôt joli pour le COS, assez haut, droit, et qui avait été éclairci successivement pour amener au stade de régénération. Là, on est arrivé au stade de régénération naturelle, c'est-à-dire qu'on gardait des semenciers pour ressemer des jeunes arbres. Vous aviez une partie qui avait été faite il y a une quinzaine d'années, un peu en dessous de la zone exploitée en 2021. Et on lançait la régénération. Voilà, donc c'est aussi ce travail-là qui va être certainement fait dans les années à venir. Donc voilà, il faut imaginer que sur ces 50 hectares, ça fait... 40 ans de travail de technicien de l'ONF avec la validation de la commune qui est partie en fumée après le feu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire derrière à réfléchir? Planter des arbres, c'est une idée, mais ça a un coût aussi, donc il faut y penser. Voilà, il y a des aides, etc., mais ça se réfléchit. Oui.
Et je voudrais apporter un complément sur le début de la remarque, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu, et pour lequel, là, je prends ma casquette de journaliste spécialisé environnement. Effectivement, il y a déjà eu des incendies. Effectivement, les plus emblématiques, il y avait eu au Massegros, il y avait eu sur le Méjean encore il y a quelques années. Ce que nous disent les climatologues, ce que nous disent les observateurs sur les longues séries, et on avait eu un peu ces remarques aussi sur le Canada, c'est que la particularité de ces incendies, c'est l'augmentation de leur fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois, la chance, entre guillemets, qu'ils ont d'intervenir, c'est pareil pour les inondations, et surtout leur ampleur. Et en l'occurrence, l'incendie de Mostuer-Jules, il a eu une virulence, et pas uniquement sur la deuxième partie, hein, mais dès la première partie, il a une puissance particulièrement forte qui font que même par rapport à des incendies méditerranéens, c'était un incendie particulièrement puissant. Et la particularité aussi, c'est qu'il a toujours eu des incendies. En revanche, des étés de sécheresse comme on a eu en 2022, où il faut se rappeler qu'il faisait 40 degrés depuis des jours, qu'il y avait eu des semaines, voire des mois sans pluie, que les réserves d'eau étaient basses et que même le Tarn était très bas, la Jonte aussi, eh bien ça, c'était des événements exceptionnels. Mais ce que amènent les changements climatiques, et notamment dans notre région, c'est que même si, pareil, au volume global, peut-être que la quantité de pluie sur l'année ne va pas forcément énormément diminuer, c'est en tout cas les observations qu'on a sur notre secteur. Par contre, ces pluies vont être plus concentrées, plus intenses, sur des plus courtes périodes. Et donc, on pourra quand même avoir des sécheresses, et d'ailleurs c'est un peu un risque qu'on a cet été, c'est que malgré les pluies abondantes qu'on a eues en début d'année, on ait quand même une sécheresse et pas du tout de pluie pendant un temps, et à nouveau des grosses pluies à l'automne. Et donc c'est ça qui fait l'augmentation du risque, et qui fait qu'effectivement en plus, mine de rien, même s'il y a de la pluie, ça fait de la matière combustible, et ça va être le problème aussi, c'est que s'il pleut beaucoup, la végétation pousse, et notamment s'il pleut au printemps, la végétation pousse plus vite, et donc ça fait encore plus de matière combustible. Voilà. Mais donc c'était pour préciser sur ce truc, il y a toujours eu des incendies, oui, oui, c'est vrai, mais pas toujours comme ça, et pas toujours de cette ampleur. Une question peut-être.
Ouais, je vais.
Et après la DDT pour compléter.
Question, vous voulez compléter?
Complément, allez-y.
Compléter votre réflexion. Donc effectivement, il y a la problématique des sécheresses qui sont certainement plus fréquentes, plus sévères avec l'évolution du climat. Et l'autre paramètre important pour avoir des incendies de forte intensité, c'est l'importance de la végétation. Donc ça a déjà été évoqué, mais il faut bien avoir en tête que dans l'Aveyron, la forêt et la surface combustible, donc friche et lande en plus, elle a très fortement progressé depuis plus d'un siècle. On avait 90 000 hectares de forêt à la fin du 19e siècle. Après la Deuxième Guerre, c'était aux alentours de 108 000 hectares. Aujourd'hui, on est à près de 300 000 hectares de forêt. Espace naturel combustible, on est à 375 000 hectares. Donc des surfaces de plus en plus étendues qui peuvent brûler. Et en parallèle, le volume sur pied par unité de surface augmente également. Le volume moyen à l'hectare a doublé en 50 ans. Donc forcément, on aura, même si on prend des conditions de sécheresse comparables, on aura beaucoup plus de chances d'avoir, de probabilité d'avoir aujourd'hui des incendies de forte intensité. Il y a des grandes surfaces à parcourir et il y a beaucoup de végétation à brûler. Plus il y a de végétation, s'il y a deux fois plus de végétation, le feu est deux fois plus intense. Donc c'est quelque chose d'important. D'où l'importance, aux abords des enjeux humains, d'aller faire du débroussaillement.
Et je précise que cette augmentation est essentiellement liée à la régénération naturelle. Ce ne sont pas des plantations qui font croître la forêt. Mais ça, vous vous en doutez. Monsieur.
Oui, j'aurais juste une question à poser d'ordre sanitaire. Quelle est l'incidence des incendies par la noire de fumée, par les retardants sur la qualité des eaux et des sources, et je pense notamment à celle de Saint-Marcellin que j'aime le plus particulièrement.
Sur les retardants, il n'y a pas de. Le retardant, il est coloré d'une manière naturelle, et c'est un savon, en fait, ni plus ni moins, qui est pas à 100% naturel, mais à 95%. Et la coloration, elle est uniquement faite pour avoir un repère pour les pilotes, pour prendre une continuité, puisque le retardant n'est pas fait pour l'extinction, mais fait pour en fait éviter une propagation. Voilà. Et là, d'où l'importance, et je rejoins mes collègues de la DDT, sur le fait de, là où il y a un enjeu humain, de pratiquer les OLD et de les faire vraiment appliquer. Parce qu'au moins, ça évite ça. Sur les fumées en elles-mêmes, oui, il y a un impact. Dans tous les cas, il y a un impact pour l'air. C'est sûr, c'est des particules fines. Mais là, j'irai pas plus loin dans le domaine. Pour l'eau, je ne sais pas. Ah, c'est pas de mon domaine, là je vais laisser Jérôme continuer.
Ouais, juste sur l'eau, le parc a fait les suivis de deux sources privées post-incendie.
Donc il y a un petit pic de fer après incendie qui est sans doute lié au colorant, en fait. Le rouge, c'est le fer. Après, je n'ai pas en tête les résultats, mais ce qu'il pourrait y avoir, c'est un peu d'augmentation de phosphate. C'est les cendres, hein, c'est ce qui a brûlé. Mais en fait, ça revient très vite à la normale après l'incendie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou
réactions aussi,
hein. Ou réactions, ouais, à ce qui a été dit.
Ces phosphates qui ont... Elles sont arrivées dans le Tarn, parce qu'on a constaté l'été qui a suivi l'incendie que le Tarn, non seulement il était marron, mais il y avait des algues particulières qui envahissaient le fond du Tarn et les berges aussi. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Et ça a disparu, mais c'était quoi ça?
Alors, je ne suis pas une spécialiste des algues, mais je vais me porter la parole de mes collègues. Le problème qu'on a eu aussi, et pourquoi on a vu autant d'algues se développer à ce moment-là, c'est qu'en plus, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de crue. Et les crues nettoient le fond des lits. Et donc là, ça faisait depuis 2020, en fait, que le Tarn n'avait pas monté, sans forcément déborder, mais ne serait-ce que monter. Et donc, il n'y avait pas eu ce phénomène de... ouais, de lessivage, enfin, lessivage c'est pour les sols, mais vraiment de nettoyage du lit des cours d'eau. Et donc bah, ça s'est développé. Et donc là, si ça va mieux, c'est parce qu'on a eu des crues récemment. Après, sur l'impact chimique à proprement parler, je préférerais pas répondre parce que je voudrais pas dire de bêtises. J'ai pas la réponse, moi, personnellement. Après, c'est sûr que plus il y a de matière organique dans l'eau, plus ça favorise le développement d'espèces. Mais...
parce qu'en fait, elles arrivaient depuis le ravin des Arzioles. Au-delà, vers le Rosier, il n'y en avait pas. Mais on voyait que ça arrivait depuis le bout du ravin et que vraiment, c'était une limite. Et il n'y avait pas que les algues. La végétation sur les galets, c'était des petites herbes qu'on pouvait arracher très facilement d'ailleurs, et c'était flagrant que ça venait du ravin des Arzioles.
C'est tout à fait possible. Les cendres, c'est quelque chose qui, dans la bonne quantité, peut être très riche. Vous en mettez peut-être au potager. On le conseille parfois pour améliorer le sol. Et donc, si ça a un impact positif sur le sol, si ça fonctionne comme un engrais, mais donc forcément, ça favorise la végétation qui pousse.
Mais... juste pour compléter, on a posé la question au service des FCI de l'ONF quand on a fait l'étude post-incendie. En fait, il y a très peu d'études sur l'impact des incendies sur la qualité de l'eau des rivières. Ça nécessiterait de mettre en place des dispositifs de suivi avant, après, d'avoir des quantités de dispositifs de mesure pour bien évaluer qu'est-ce qui provient vraiment de la zone incendiée, de ce qui prévient du reste du bassin versant. Et ça, c'est très difficile, effectivement, à répondre sur ce genre de questions-là. On a des impressions. A priori, il y a un impact qui est plutôt flash, c'est-à-dire qui est juste après l'incendie, juste après les lessivages, mais qui ne perdure pas. Mais voilà, c'est que des impressions. On ne peut pas le généraliser ni en être certain. Oui.
On va peut-être prendre encore une question, une dernière question, s'il y en a. Et puis, les échanges peuvent continuer aussi de manière informelle, parce que on a amené des boissons et puis à 18h, il y a encore une restitution plus centrée sur le projet radio. Mais il y aura à nouveau la possibilité d'échanger. C'est le but aussi de cette journée et de cette soirée. Donc voilà, si jamais, il y a aussi la possibilité de poursuivre les discussions.
Je crois qu'il est l'heure de la pause. Remercier grandement tous nos interlocuteurs et nos invités pour la qualité de leur présentation. Voilà... Je précise qu'au maximum, dans ce qui pourrait être partageable, mais on essaiera de pouvoir rendre public une partie de ces présentations. De toute façon, l'enregistrement de ces tables rondes sera diffusé sur Radio Larzac et sur le site de radiolarzac.org. Et puis, rendez-vous à partir de 18h pour la soirée, sous un mode peut-être plus convivial et plus partagé, autour donc de la sortie de ma résidence, Résonance du feu, et il y aura à boire et à picorer à ce moment-là. Merci à toutes et tous et bonne suite de journée.